Cette présentation s'intitule « Les questions de santé publique dans la mise en œuvre de la vaccination anti-HPV ». Elle porte sur les possibilités de cette mise en œuvre dans les pays à faibles ressources. De nombreuses questions surgissent quand on évoque ce sujet, et nous en avons retenu 7. La première est la suivante. Le coût de la vaccination anti-HPV. Nous avons constaté que le coût des vaccins de base du programme élargi de vaccination est de 1 à 2 dollars US et que le vaccin contre l'hépatite B coûte de 2 à 3 dollars US, alors que le coût de la vaccination anti-HPV sera de 120 dollars ou 200 euros pour 3 injections. L'accessibilité du prix de la vaccination est également un enjeu important, car le cancer du col utérin s'observe chez les femmes issues d'un milieu pauvre qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à la vaccination anti-HPV. La deuxième question porte sur la plateforme de vaccination. La vaccination, dans le cadre du programme élargi de vaccination, a lieu lorsque les enfants ont moins d'un an et quand il est facile de les atteindre. On assiste donc à un taux de couverture élevé. Cependant, en ce qui concerne la vaccination anti-HPV, elle a lieu au cours de l'adolescence et n'est permise par aucune plateforme pour le moment. Ces plateformes doivent être construites par le biais de plusieurs systèmes. Un de ces systèmes opère sous l'impulsion d'une campagne de vaccination, à savoir une campagne de vaccination de masse réalisée sur une journée dans tout le pays, telle que la campagne de vaccination contre la polio. Une autre solution consisterait en un système mis en place à travers les systèmes scolaires. Mais dans certains pays, les filles ne vont pas à l'école. Et par conséquent, comment pouvons-nous faire en sorte que ces filles aient accès à la vaccination? Tel est le deuxième enjeu. La troisième question se pose dans le cadre de la promotion d'un vaccin. Doit-on promouvoir la vaccination comme un moyen de prévention du papillomavirus humain ou comme un moyen de prévention du cancer? Le vaccin doit être présenté en tant que vaccin pour la prévention du cancer. S'il est présenté comme un moyen de prévention d'une maladie sexuellement transmissible, alors il y aura des retentissements, notamment sur les questions morales ou de promiscuité que cela implique. La quatrième question concerne le groupe d'âge cible chez les femmes. Mis à part l'âge, la question, à savoir si les garçons et les jeunes hommes doivent également être vaccinés, doit être abordée avant le début de la vie sexuelle. La licence d'autorisation stipule que le vaccin peut être utilisé à partir de 9 ans, mais certains chercheurs souhaiteraient l'introduire en même temps que la vaccination, dans le cadre du programme élargi de vaccination, qui a lieu pendant l'enfance, car les infrastructures sont déjà en place. Quels sont les effets chez les enfants ? L'immunité persiste-t-elle au moment de l'exposition, c'est-à-dire de la vaccination à l'âge de 1 an jusqu'à l'exposition à partir de 15 ans? Ceci est particulièrement important dans les pays dont les ressources et les structures de soins sont limitées, d'une part, et dont les programmes de revaccination ne sont pas envisageables d'autre part. Combien de temps durera l'immunité? Une dose de rappel est-elle nécessaire? Toutes ces questions restent à élucider. La cinquième question porte sur les souches de HPV. Le vaccin protège contre les souches des HPV de type 16 et 18, c'est-à-dire 70% des cancers du col utérin. À long terme, nous ignorons si le vaccin protège contre les autres types de HPV ou si ces types de HPV prendront le dessus. Dans ce cas, la vaccination ne serait plus efficace et les femmes ne seraient plus protégées contre le cancer. Pour l'instant, nous utilisons un vaccin coûteux qui ne couvre pas totalement le spectre des types de HPV. Nous pensons qu'il protégera les femmes contre 70% des types de HPV et que 30% disparaîtront, mais des preuves scientifiques s'imposent. La sixième question concerne l'interaction entre la vaccination et le dépistage. Ils ne sont pas en contradiction l'un envers l'autre, mais sont plutôt complémentaires. Il s'agit d'un vaccin prophylactique et non d'un vaccin thérapeutique. Par conséquent, il faudra poursuivre les programmes de dépistage actuels afin d'offrir une prévention secondaire aux femmes qui seraient déjà infectées et aux femmes qui ont été vaccinées mais infectées par d'autres souches ou aux femmes non immunisées et infectées dans le futur. Quel est l'intervalle de temps nécessaire entre deux dépistages? Nous l'ignorons jusqu'à présent. La septième question que nous posons concerne la couverture vaccinale. Même avec la vaccination dans le cadre du programme élargi de vaccination, la couverture vaccinale est faible. Les enfants ne bénéficient pas d'une couverture vaccinale comme il se doit. Plus l'enfant grandit, plus la couverture vaccinale chute. Dans quelle mesure pouvons-nous espérer que la vaccination anti-HPV est une couverture vaccinale plus importante? Ce graphique montre le pourcentage global de la couverture vaccinale du DT polio 3 doses entre 1980 et 2005. Entre 1980 et 1990, la couverture a augmenté de façon spectaculaire. Cependant, depuis 1980, la couverture a atteint un plateau. La couverture diffère en fonction des pays. Dans les pays développés, la couverture atteint presque 100%. Cependant, elle est de 70% seulement pour les pays de l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud. Le graphique montre les régions qui ont atteint au moins 80% de couverture vaccinale du DT polio 3 doses. Seulement 28% ont atteint cette couverture et 76% non. En conclusion, des questions et des incertitudes persistent sur la mise en œuvre de la vaccination anti-HPV. Il est nécessaire d'attendre une diminution des coûts, des preuves scientifiques sur la durée de l'immunité, sur les types de HPV et sur l'efficacité de 3 doses. Mais est-il possible que la vaccination soit aussi efficace avec 2 doses, ou voire même une seule dose? Dans un avenir proche, nous devrions être capables de répondre à ces questions. Merci pour votre attention.